Alors, bonsoir et merci à la librairie Mola de nous recevoir ce soir. C'est bon au niveau du son ?
Ouais.
Ouais. Voilà. Donc, Poésie Espace Public, organisée par les éditions de Beducienne. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Hubert Ducos pour son livre Le noyau de toutes choses, publié chez POL. Et seconde partie de la rencontre, Le carnet des morts de Claude Chambard. Ça vient d'arriver tout à l'heure, c'est tout chaud. Voilà, donc je les remercie tous les deux, ils sont avec nous et ils ont préparé chacun une courte lecture et en préambule, nous échangerons un petit peu avec les auteurs. Voilà. Alors pourquoi Hubert Ducos qui ne publie pas aux éditions de du Ciel ? Hubert Ducos, c'est un vieux complice de la maison d'édition, on se connaît depuis longtemps maintenant, 18 ans peut-être ?
Oui.
Hein ? Nous organisons en partenariat avec la médiathèque de Lormont vendredi un vernissage de ses collages, parce que Hubert Ducos est un grand écrivain, mais il pratique aussi depuis plus de 30 ans le collage. Et donc il y a une exposition à la médiathèque de Lormont à partir de l'ouverture d'inauguration, c'est vendredi 11 à 17h30. Donc Hubert Ducos fera le tour de l'exposition, parlera de ses collages et terminera par une lecture de plusieurs textes qui courent un petit peu dans tout son parcours d'écrivain. Voilà, ça, c'est quelque chose de très très beau. Voilà, donc Hubert Ducos, par rapport au noyau de toutes choses, c'est un livre bon, qui vient de paraître en décembre 2010. Hein. Et donc on a l'impression depuis quelques livres maintenant qu'il y a un projet d'écriture qui se développe, qu'il y a une espèce de continuité avec les précédents livres. Donc j'aimerais peut-être que tu nous dises en préambule quel est le noyau de ce livre, sa singularité et la continuité ou la discontinuité par rapport à ton œuvre.
Ce livre est environ le 15e d'une recherche entreprise à partir du graphe dont vous avez peut-être entendu parler, en 1970. Chacun de mes livres est comme un journal, mais travaillé en tendant vers le roman et en tendant vers la poésie. C'est-à-dire que, en gros, comme vous pourrez le constater, je m'intéresse au réel, à des choses qui se produisent, qui me touchent, et ensuite le travail de la langue peut aboutir à une manière de romancer ce réel, de renouer avec la littérature aimée dans mon adolescence, qui est la littérature, la grande littérature romanesque du 19e siècle, Balzac, Stendhal, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, etc. Voir la liste sur Internet ou à côté d'Internet. Depuis le début de ce siècle, quasiment depuis la chute des deux tours le 11 septembre, je suis de plus en plus près du journal. Et je suis de plus en plus libre par rapport à ce journal, c'est-à-dire que je crois que je progresse dans la réécriture du journal, dans la double perspective personnelle, intime, absolument pas théorique, du roman et du poème. Donc il y aurait progrès, peut-être même accessibilité au texte pour le public. Le noyau de toute chose, je l'ai entrepris au début janvier 2008 et je l'ai achevé au milieu février 2009. Ensuite, j'ai retravaillé tous les textes pendant quasiment des années. Et surtout, je suis à la retraite, ce qui importe, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup plus de temps et beaucoup plus de liberté, à savoir que j'écris un mauvais texte, bon, ma vie n'est pas compromise, tant pis, je reprendrai, je l'éliminerai. Je vais vous lire deux extraits qui sont, disons, caractéristiques de ce livre qui a certains aspects spectaculaires, à savoir la prison, le suicide, l'hôpital, l'enterrement, etc., etc. Tout en étant finalement optimiste, c'est-à-dire qu'il y a un carpe diem, plus je vais mal, plus le monde va mal. Et j'arrive à, quand même au sensationnel, c'est-à-dire à goûter les sensations infimes. J'écris récemment, tout à fait spontanément, sans vouloir briller dans des salons qui n'existent plus. J'ai écrit dernièrement qu'une sensation un matin peut satisfaire mon désir d'aventure de toute la journée. L'extrait, la scène, enfin, que je vais vous lire, se déroule en Gironde. Car j'ai des attaches bordelaises et girondines par ma mère, et je suis propriétaire en Gironde, c'est-à-dire à Souex-sur-Mer. L'espace proche de la Garonne, en amont de Bordeaux, se durcit comme s'il portait un établissement scolaire ou industriel. Le parking de la prison de Gradignan compte peu de voitures. Contrôle d'identité, détection magnétique des métaux. Le mot « femme », quartier des femmes, à âpreté érotique, avec idée maladie, infamie. Ensuite, « femme » opposera à « homme » l'absence de dureté. Elles ne se battent pas. On n'entrave pas la détenue pour l'emmener à l'hôpital civil, mais les accouchements menottés peuplent ma mémoire quand les poignées maternelles écrivent le destin originel du nouveau-né. Notre accompagnateur est un instituteur qui a quelque chose de faux. Il semble plutôt du côté des flics que des élèves. Il ouvre et reforme plusieurs portes de ce qui apparaît un collège technique vide. Tous les gardiens rencontrés, des femmes, sympathiques et sportives. Les auditrices à qui je lirai mes textes sont quatre. Trois jeunes filles, des élèves de terminale, et une vieille, sèche, laide, nombreuses dents absentes, un retrait marque sa face, a-t-elle entre 40 et 45 ans. Deux des trois jeunes filles sont très jolies, à deux pôles, berbères ou ibériques et du Nord. La méridionale a quelque chose d'endiablé, mais son grand trait sera maternel. Elle parlera de sa fille. La nordique aux longs cheveux d'iseux, yeux marrons, demeure songeuse. Toutes quatre semblent approuver la moindre de mes paroles, font de moi une instance. C'est à moi qu'elle demande la permission de fumer, non à l'aumônier, l'instituteur. Depuis le bout de la table rectangulaire, deux à ma droite, deux à ma gauche, l'aumônier face à moi, j'annonce les textes de façon non technique, en m'excusant. Trop compliqué et triste, tragique, parce que la vie est telle. Approbation. L'aumônier tend sournoisement à diminuer ma personne et mes postulats, à me renvoyer aux cours magistraux qui professent une esthétique contraire à la mienne. Notre TGV vers Paris vient de passer Angoulême. Un triste clocher demeure en moi, petite cathédrale perchée, grand l'ennui de Lucien Chardon. Pourtant, il vivait le matin de la vie. Faisait-il souvent l'amour avec Madame de Bargeton ? Ou, certainement pas dans une grange. Je suis en liberté, vivante fibre du paysage, elles sont bouclées dans leurs cellules, dont j'ai vu les portes, porteuses d'une croix couleur rouille, me semble-t-il, le signe élémentaire qui annule quelque chose ou qui, positif, remplit une case. Nous, l'éditeur Didier Vergniaud, l'aumônier et moi, sommes passés devant ces portes dans un couloir d'école, Nous étions restés une minute après les prisonnières dans la salle de classe. Pendant ma lecture, l'éditeur demeura installé contre la fenêtre grillée, voyant un peu de paysage, invisible depuis notre table. La séparation aux vives douceurs. L'administration avait fixé la fin à 17h30. À 17h40, plusieurs gardiennes de type infirmière sont entrées rapidement, non agressives ni autoritaires. Les femmes nous ont serré la main. Deux m'ont demandé « Vous reviendrez ?» Mon menton a désigné l'aumônier qui pourrait m'inviter de nouveau. L'une, « Vous écrirez sur nous ?» Nous sommes sortis derrière les quatre. Il me semble qu'Iseux, aux longs cheveux, a disparu dans une porte ouverte qu'on refermait sur elle, happée. J'ai repris ma méditation coutumière, surgissement du néant. Ne m'inspire pas cela le sort des détenus, mais la lumière. La prison a une lumière sans charme. Rien ici n'est vaporeux, pas même le profil de la jolie blonde. Les quatre aimaient prononcer la prison, être en prison. Les dirais-je fiers de leur aventure, de leurs conditions, dont elles déplorent l'immobilité. Elles s'intéressèrent à ma propre aventure, qui consistait en une entrée. C'est la première fois, vous avez découvert quelque chose, eu une révélation. Ah, j'ai vu tant de films et téléfilms. Elles répondirent d'une seule voix, le réel est totalement différent. Puis, la télévision est venue, on m'a montré me lavant les cheveux. La belle se tourne sur le côté, plus fan d'Alger encore. La figure qu'elle forme dans mon esprit est femme s'accouplant au flux d'un séchoir électrique. Elles ont insisté, qu'est-ce qui vous a frappé? J'ai aussitôt répondu les couleurs vides, les couloirs vides. Dans l'un, après deux autres, une vitre centrait la porte d'une cellule dans laquelle une femme de face, 45 ans, tenait un stylo dont le balancement accompagnait le mouvement de ses lèvres. Son interlocutrice était de trois quarts d'eau, cheveux couvrant presque les épaules. M'éloignant de la porte, je lus au-dessus de celle-ci « Avocat ». Ainsi, une avocate concentrée et active réfléchissait vers moi dans un surcroît de mystère, la première détenue que j'entreapercevais. Alors, ce texte a été écrit presque d'un seul jet. Quand j'ai quitté, il y a deux morceaux, quand j'ai quitté la prison, c'est-à-dire deux ou trois heures après, puis ensuite, le lendemain, quand j'étais dans le train. J'aurais pu ne pas faire de retour en arrière, etc., ne faire qu'un seul morceau, mais finalement, comme c'est un des textes les moins travaillés de ce livre, j'ai préféré qu'il reste dans l'état de la plus grande virginité possible. Mon épouse Anne-Marie m'annonce qu'elle déjeunera avec Colette Gilles, elles traiteront de la copropriété. L'image de l'immeuble, de sa cour, s'approfondit brutalement. J'ai soudain conscience que l'événement tragique survenu il y a quelques jours, combien, ne m'est pas revenu depuis son écriture. Voici le texte, voici la date. Il est midi passé, ce samedi 16 février 2008. Je suis dans le salon. Venu de sa chambre, mon petit-fils Cédric passe en vitesse devant moi, se dirigeant vers la cuisine. Rapide mais neutre. Une femme vient de se jeter par la fenêtre. De la cuisine, il regarde dans la cour, à côté d'Anne-Marie, à laquelle il a précisé que la femme avait 30 ans, ou 40, que le bruit assourdissant la tira à la fenêtre de sa chambre. Vite, Cédric vint à nous. Son ami Michael, archéologue biologique, est médecin. Il descend dans la cour, pendant que j'appelle le SAMU et Cédric les pompiers. Il remonte, morte. Ce que je déclare au SAMU qui enfin répond. Une minute plus tard, deux cars sont là, rouge, pompier, blanc. Alors, tout ira lentement. Je refuse d'assouvir ma curiosité en descendant dans la cour. Nous déjeunons de reste réchauffés. Une jolie métisse, une malaise. Petite, avec un énorme police dans le dos, désire le témoignage de Cédric, appelé. Et il parle sur le palier car la policière n'a pas voulu entrer. Gestes et paroles plus sobres qu'à la télévision. Ainsi s'exprimeraient les belles de Gradignan. Le temps passe. Une femme est dans la cuisine. Elle prend le thé avec Anne-Marie. C'est la meilleure amie de la morte qu'elle nomme Odile Bernstein. Une voisine du quatrième, l'étage des anciennes chambres de bonne, avait indiqué sa profession au CNRS. La dame, une quinquagénaire, dit l'âge d'Odile Bernstein à elle-même, Anne-Marie, 56 ans. Il y a 12 ans, Odile Bernstein s'est séparée de son mari. Il y a quelques mois, son amie est partie vivre à l'étranger. Elle n'a pas voulu le suivre après de grandes hésitations. Je regarde dans la cour, une momie en papier d'argent, un peu élargie aux hanches, présente un visage jeune et verdâtre. Comme l'observe Cédric, un enfant pourrait entrer dans la cour, traumatisme. Maintenant, deux flics sont dans la cuisine. Ils interrogent l'ami d'Odile Bernstein. Nous les avons laissés seuls avec elle. La scène dure un quart d'heure. Ils partent en nous remerciant fort. Anne-Marie, surprise, c'est si naturel de ne pas avoir laissé cette dame dehors après choc. Un flic, c'est exceptionnel. Après leur départ, je regarde par la fenêtre la momie refermée. La chape de métal blanc enveloppe le visage. Anne-Marie, cours tragique. Il y a 15 ans, un serial killer agressait une jeune femme qui, par miracle, échappa à l'effroyable destin. Anne-Marie souligne l'extraordinaire résistance du corps humain. Tombé du quatrième étage, il ne laisse aucune trace de sang. Je ne parviens à imaginer l'hémorragie interne. Alors qu'aujourd'hui, Anne-Marie part déjeuner avec Madame Gilles, je me porte inconsciemment vers la fenêtre de la cuisine sous laquelle la cour s'est refermée sur soi pendant de longs jours, sans le vertige de la chute, sans la mort, sans la femme morte dans du papier d'argent. Bon, fin de l'extrait, fin de la lecture.
Je vais te poser une ou deux questions quand même par rapport au texte. Là, on sent bien ton travail sur le journal, hein, oui. Par rapport à ce livre. Mais depuis quelques livres, il y a une. Bon, je voulais poser la question du rapport au politique qui t'habite de plus en plus.
Oui.
Et depuis plusieurs livres, voilà, tu es beaucoup plus engagé dans tes textes. Bon, ceux-là ne sont pas représentatifs d'une partie du livre. Justement, sur cet engagement politique, tu parles beaucoup de Bush, tu parles beaucoup de Kouchner, de Sarkozy. Tu as une dimension où la littérature, est, sans être une littérature engagée, tu as un regard très très acéré sur ce qui se passe en ce moment, la FMI. Si tu veux nous en dire un petit mot, ça prend quand même une partie de ce livre, même si ce n'est pas tout le livre.
Alors, dans le noyau de toutes choses, une partie ou des sous-parties dans des différents chapitres, traite de la fameuse crise financière de la fin 2008. Et j'ai assisté à ça un peu comme j'assisterais à, disons, je visiterais la Chine ou Rome ou Palerme. C'est-à-dire qu'il y a une lecture impressionniste de l'affaire. Et je note des énormités. Le journal du dimanche, qui a pour commanditaire Lagardère, qui est un des gros capitalistes français, a titré à la fin d'une semaine où la bourse était remontée d'un bon nombre de points, c'est exceptionnel, 10% le vendredi, note « La crise est vaincue, tout est vaincu ». Alors que, bien entendu, et moi, j'avais écrit directement dans mon journal, les 10% se sont ensuite effrités pendant la semaine qui suivait. Donc, j'ai fait une lecture impressionniste des choses, tout en étant tendancieux, à savoir gauchisant, disons, c'est-à-dire plus gauchisant que Dominique Strauss-Kahn. Depuis nombreuses années, les critiques, car il y en a quand même, notent que je parle du jeu individuel et du jeu collectif. C'est-à-dire que quand je parle de la crise, ou quand je parle de cette femme qui tombe dans la cour, j'adhère à cela. Enfin, je ne suis pas nombriliste, bien que je sois nombriliste.
Claude. Donc Claude Chambert vient de faire paraître le Carnet des morts aux éditions Bleu du Ciel. Et donc c'est le quatrième livre paru faisant partie d'un cycle qui est annoncé en 12 volumes et qui s'appelle Un nécessaire malentendu. Donc avant d'entendre des extraits de ce livre que Claude va nous lire, j'aimerais qu'il rapidement brosse un peu depuis le premier livre paru de ce cycle en 2002 qui s'appelle La vie de famille, qui nous brosse un petit peu le tableau un peu de ces trois livres précédents pour arriver à celui-ci, sachant que en gros chaque livre traite à une couleur, à une tonalité, à une écriture et surtout correspond à des thématiques particulières. Et on est dans l'évolution d'un projet avec à chaque fois des livres qui ont une forte spécificité. Voilà, Claude.
Oui, alors en écoutant Hubert Lucot, je pensais qu'il y avait pas mal de points communs finalement entre nos travaux, mais j'ai réfléchi aussi que je ne pouvais pas répondre directement à ta question, Didier, puisque tu m'avais dit que tu allais me la poser. J'étais obligé de repartir un peu en arrière, de repartir à 1995. Jusqu'en 1995, pendant très longtemps, j'ai eu une maison d'édition qui s'appelait « À passage de coupable », que je faisais au plomb, que je faisais des livres au plomb. Et ça, ça paraît a priori anecdotique, mais c'est important. Les livres que je publiais étaient par nature brefs, parce que comme j'étais plutôt paresseux et qu'ils composaient les livres lettre à lettre, c'était quand même très long, je demandais aux auteurs de me donner plutôt des textes courts. Donc on m'avait aussitôt catalogué comme éditeur et auteur de textes, entre guillemets, on va dire blancs. Vous voyez, Claude Réjour, Noué Malaloc, enfin, effectivement, j'étais plutôt de ce côté-là, et j'étais moi-même dans l'écriture plutôt de ce côté-là. Et au fond, je me demande encore aujourd'hui si ce n'était pas un contre-emploi. Et en 1995, après 2-3 années où je n'ai quasiment pas écrit, où je n'éditais plus, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Élégie de Pont-de-Voix », dans lequel j'ai décidé d'essayer de mettre en jeu ce qu'il y avait de plus personnel dans mon existence, en essayant de l'attribuer à la multitude. Donc c'était la première tentative, c'était aussi la première tentative de faire fonctionner le texte avec des images. Pour moi, ça devenait un petit peu une nécessité, j'avais besoin qu'il y ait des images qui... Bon, j'en ramassais un peu partout où j'en trouvais, des cartes postales, des vieilles photos de je ne sais qui, enfin, et ainsi de suite. Je me disais, il faut en faire quelque chose. Donc en 1995, il y a ce livre, Élégie de Pont-de-Voix, qui est un petit peu le point de départ d'une réflexion qui va amener le nécessaire malentendu, qui commence en 2000, dans le premier volume, en 2002, donc, 2002. Parce que Didier me le lit par hasard et me le demande, donc j'en suis toujours très, très heureux, et dans lequel l'idée était de faire jouer ce qu'il y a de plus effectivement trivial dans la vie, la famille, les amis, qu'est-ce qui fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut faire de ça dans la littérature, comment ça peut fonctionner. Et l'idée était aussi que les 12, puisque tous mes livres font 12 chapitres, l'idée était que les 12 chapitres soient représentatifs des livres à venir, parce que je voudrais qu'il y en ait 12, si le temps le permet, comme disait l'autre. Si le temps le permet, il y en aura 12. Donc, pour le moment, il y en a 4. Le cinquième est presque fini. Donc, le sixième est en cours, parce que je travaille rarement sur une seule chose. Donc, la vie de famille, c'était vraiment comment ça fonctionne, tout ça, et puis comment on va pouvoir traduire, au fond, tout ça. D'ailleurs, il y avait un chapitre sur la traduction. Il y avait beaucoup de choses. Ça se terminait d'une manière très rythmée, parce que c'était volontairement quelque chose qui allait revenir un petit peu comme un leitmotiv dans tous les livres. D'ailleurs, dans celui-là, on retrouve des choses de la vie de famille. Le second, donc ce qui arrive, était un livre dans lequel, ben, au fond, on repartait sur les fondements de la famille, comment les gens qui créent une famille, c'est-à-dire qui ont des enfants, qui, etc., ben, se rencontrent. Qu'est-ce que c'est une histoire d'amour? Comment ça marche? Comment ça peut ne pas marcher? Qu'est-ce qu'il y a d'énigmatique dans la vie? Il y avait donc un dernier chapitre, lui-même découpé en 12 chapitres, particulièrement énigmatique, qui a posé beaucoup de problèmes aux quelques critiques qui en ont parlé. et qui était un chapitre finalement qui a été celui qui peut-être qui a le plus plu au lecteur au bout du bout, alors que c'était le plus difficile à lire à mon avis. Le troisième, Le chemin vers la cabane, c'était plutôt un livre qui fonctionnait sur comment ça marche quand les gens ne sont plus ensemble. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'écrivent. Donc comment est-ce qu'on fait rentrer la correspondance à l'intérieur d'un livre qui fonctionne sur l'absence ? Donc on va dire ça, je vais très vite, hein, je simplifie à l'extrême tout ça. Et le quatrième, donc le carnet des morts, un carnet des morts qui paraît donc aujourd'hui, avec une couverture de François Maton, et je suis vraiment très fier d'avoir ce dessin de François Maton en couverture, donc je le dis parce que vraiment je suis très heureux d'avoir ce dessin qui m'a accompagné pendant toute l'écriture de ce livre, sans qu'il le sache, puisque je ne connais pas François Maton. J'ai trouvé ce dessin sur son blog en 2007, alors que j'étais en train de réfléchir à ce livre, et j'ai pensé à ce dessin tous les jours pendant le travail d'écriture du livre. Comme vous, Hubert, j'ai été très vite pour le faire, j'ai dû mettre 4 mois, 5 mois, puis après j'ai travaillé 2 ans et demi pour arriver à quelque chose d'à peu près satisfaisant. Je crois que si Didier ne m'avait pas dit « bon ça y est, le CNL a donné son aide, il faut quand même le publier, je continuerai encore de travailler enfin, », c'est l'histoire habituelle. Mais celui-là, c'est plutôt l'idée était de partir sur un livre un petit peu dans lequel le personnage, puisqu'il y a quand même un narrateur dans tous ces livres, au fond, le personnage partait, quitter le monde pour essayer de retrouver ce qu'il avait au fond jamais perdu, je ne sais pas comment dire ça, essayer de voir comment ce qui, au fond, d'essayer de démontrer une vieille histoire, hein, une très vieille histoire, somme toute, vous allez rire, mais que la littérature précède la vie. J'en démords absolument pas. Et j'en ai une preuve immédiate, bon, hormis des tas d'anecdotes qu'on pourrait se raconter, qui ont été vérifiées, hein, la mort de Robert Walzer, décrite dans l'Institut Benjaminta, la mort de Tennessee Williams, décrite dans une de ses nouvelles, quand il avait 35 ans, et ainsi de suite. Moi, j'avais prévu que mon personnage, pour pouvoir s'en aller, devait tomber, faisait une chute, se ramassait le nez dans mon histoire, mais il était prévu qu'il tombe dans ses escaliers, et donc qui réchappe d'une chute un peu violente, et qui se dise qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, ça lui remettait un peu les idées en place, quoi, au fond, tout ça en place, et il allait s'en aller dans un territoire improbable, à la rencontre d'une c'est quoi, et il allait finir par rencontrer ses aïeuls morts, et se mettre à parler avec eux, comme si tout ça était tout à fait normal, sans souci. Et puis toutes ces lectures d'enfance allaient remonter comme des rêves, et il y avait, entre autres, une lecture importante qui est dans le livre, qui était celle du Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper. Donc, je vais revenir dessus après. Et donc, il se trouve que dans la vie, après avoir donc décrit la scène de l'escalier où le personnage se ramassait, je suis tombé en vélo. J'ai fait une chute de vélo dans les semaines qui ont suivi, mais assez violente, quoi. Je me suis retrouvé vraiment très mal. Je me suis dit, c'est quand même assez étonnant. Mon ami François Lespiau m'a fait remarquer que cette scène de vélo était décrite également par Arthur Adamoff dans Jeuil, et qu'il y avait quelque chose comme ça qui fonctionnait aussi. C'était moi qui lui avais offert Jeuil il y a une quinzaine d'années à François Lespiau, donc c'était assez paradoxal. Moi, je ne me souvenais pas de ça. Voilà, donc il y avait là, la fiction avait précédé la réalité. Enfin bon, donc je me suis dit, il faut quand même que je travaille vraiment avec ça. Donc c'est la première fois, au fond, que je construisais un personnage qui partait de moi, mais certes, mais qui allait, au fond, à devenir un vrai personnage de fiction que j'allais regarder de plus en plus loin. Et il se trouve que pendant que j'écrivais ce livre, et que je n'avais pas encore tout à fait trouvé certaines formes, un auteur de bande dessinée qui est d'ailleurs dans la salle, qui s'appelle Cromwell, Didier Cromwell, avec sa compagne Lucie Brooke, qui se fait appeler Kat Malou quand elle est scénariste, m'ont proposé de travailler autour d'un projet qu'ils avaient en cours qui s'appelle Le Dernier Mohican, une adaptation en bande dessinée du Dernier Mohican. J'ai dit, c'est incroyable, quoi. Je suis en train de parler du Dernier Mohican dans un livre et quelqu'un me demande de fonctionner autour de. Et donc j'ai fait la préface du Dernier Mohican. De Cromwell et Kat Malou, j'en suis vraiment très très heureux. Donc décidément tout ça a fonctionné et a fait que finalement tout a, voilà, je sais pas, enfin cette espèce, il y avait une espèce de vérité qui finalement surgissait là. Enfin, je dis pas que c'était la vérité, parce que la vérité je sais pas ce que c'est, mais qu'il y avait une vérité au moins qui était la mienne, celle qui se fabriquait petit à petit au fur et à mesure que l'écriture venait. et qui faisait que finalement la vie me vérifiait. La vie vérifiait tout ce que j'avançais. Alors, l'autre jour, quelqu'un m'a dit par mail, à qui j'avais envoyé les épreuves du livre, m'a dit ça pourrait être ton testament. J'espère que c'est pas mon testament, parce que j'aimerais bien encore en publier un ou deux ou trois. Normalement, il y en a 12, donc j'aurais bien avoir le temps. Mais c'est vrai que ça pourrait être ton testament. Bon, enfin, ça pourrait être un petit peu. D'autant que la couverture est quand même particulière, même si je suis. Donc voilà, c'est quoi ? C'était, c'est simplement l'idée de remplir des pages blanches et de voir ce qu'on peut en faire. Mais remplir les pages blanches, néanmoins, au bout du compte, je m'en rends compte, maintenant je dois avoir publié quoi, 35 livres, aussi mince soit-il ou pas, je me rends compte que remplir les pages blanches, c'est quand même une très maigre consolation. C'est une consolation, mais c'est une très maigre consolation. Mais qu'en même temps, on arrive à peut-être à construire quelque chose qui est de l'ordre de la capacité à la beauté ou à partir d'une certaine dose de désespoir. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que c'est aussi la première fois qu'il y a des allusions à la politique assez précises dans ce livre. Donc, enfin, à ce point-là. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
<C'est parfaitement.
rire> Mais voilà, c'était tout ce que je pouvais dire. J'ai trouvé tout à l'heure une phrase qui m'avait frappé, mais que je dirai peut-être tout à l'heure. Enfin, j'en sais rien, voilà. Donc c'était aussi pour dire ça par rapport au travail de Didier Cromwell, ce travail de bande dessinée assez inouï qu'il a produit avec Atmalou, j'en reviens pas, quoi. Je suis pas un grand spécialiste de la bande dessinée, mais quand j'ai vu son travail, je suis resté absolument ébahi. Au point que j'ai d'ailleurs qu'il est question du dernier Mohican dans le livre, et que j'ai même pas osé lui demander si je pouvais reproduire un de ses dessins. Mais j'ai pas osé.
Peut-être juste dire dans des rapprochements, bien que ce que les livres qu'écrit Hubert Ducos et Claude Chambard soient très différents quand même, il y a aussi quand même un mélange par rapport à la phrase et par rapport à l'énonciation littéraire et poétique de ces langues, des choses qui sont du registre du mélange des genres et qui sont tout à fait intéressantes. La poésie fonctionne avec la narration, le récit arrive, le journal est complètement finalement perverti, redistribué, on a l'impression qu'on est dans le réel, c'est la fiction qui prend dessus. Et je trouve que là, il y a, même si ce sont des livres différents, écrits différemment, il y a des principes tout à fait moteurs, vraiment importants et très beaux, qui jouent justement dans ce tissage des genres, dans le tissage du vrai et du faux, du passé et du présent. Et on obtient quelque chose qui est proche du fonctionnement mental des gens, mais en même temps avec une force inédite par rapport à une littérature plus de consommation.
Oui, parce que si on regarde celui-là vraiment comme il est fait, c'est vraiment un carnet. C'est-à-dire un carnet tenu au jour le jour par quelqu'un qui s'en va, qui part, il ne sait pas très bien où, et qui va un matin donc trouver des ancêtres autour de lui sans se poser de questions par rapport à ça, et qui, quand ils vont disparaître aussi, ne se posera pas plus de questions sur la disparition des personnages, des personnages qui l'accompagnaient. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu le début, puis un petit peu du dixième chapitre. Dans le grain du miroir de la bibliothèque, la trace laiteuse de la fumée du bâton d'encens qui se consume devant le bastardo de Paul Klee. Une ombre en avant de moi. Le fils du bâtard, le versant clair de qui ne soupçonna pas. Là où ma vue porte la trace d'un qui ne connut pas, que l'on peut pleurer sans respirer. Père, je ne peux pas, tu ne m'as pas précédé. Tu as refusé de me précéder. Suis-je condamné à la colaparté absolue ? Il n'y a plus d'esprit du monde, ni d'histoire pour conduire devant son tribunal. Autrement dit, il n'y a plus de sens du monde. Nous le savons. Nous savons que c'est la fin du monde. La beauté est instable. Je vois la tête du mort et c'est la mienne, en noir. Elle me court après, montée sur une robe sombre, ample et poisseuse. La famille est aux fenêtres et nous regarde passer sans un signe pour l'un, pour l'autre. Chaque tête grise, je le sais, va devenir la tête d'un mort. Maman dira au matin que c'est un cauchemar. Maman n'a jamais su reconnaître un rêve d'un cauchemar. Mon giron, c'est ma tête et je me désunis. Le giron semble ne plus vouloir du rêve, de la figuration. L'oreille le dit, la culpabilité le dit. Pas pareil, pas sur le même ton, la même gamme. Dans le cercueil, les mains jointes, un chapelet peut-être ? Dans la parure, satin, bon marché, un bleu pas trop dur peut-être ? Rien de pas loin, bien entendu, nous y veillons. Oreiller assorti, vous verrez du plus bel effet. Nous pouvons fournir plantes, fleurs et compositions fraîches ou artificielles. Je voudrais un portrait de Jean Jaurès et une rose rouge, c'est possible ? C'est inattendu, mais ça doit être réalisable. Il faut voir, avec les responsables de la crémation. Entendons-nous bien. Si je ne puis obtenir cela, je refuse de mourir, que ce soit clair. La partie de chasse débute avant les premiers rayons de soleil. Dans le très relatif silence de la campagne, les hommes chuchotent dans le col remonté de leur veste. Les doigts gèlent sur l'acier des canons. Certains portent des mitaines. La buée de leur respiration se mêle à la brume du petit matin. Une scène primitive. Car où pourrais-je me retirer hors du ciel et de la terre afin que mon amour puisse venir en moi? Ne tirez pas en lisière. Le rabat arrive par l'ouest, à la pointe de la Sapinette. Qui parmi nous serait capable de porter sa vue jusque-là? Mais les bêtes, les monstrueuses bêtes entourent le père. S'il a le choix, il mourra, c'est simple. Dans le sang répandu du père flottent les fantômes des origines, les ancêtres. L'enfant lève la torche près de la roche. Il n'y a que des ombres à deviner, le temps est neuf. La chasse à l'affût, le voyeurisme, la contemplation, la lecture sont transis de sens. Un coup de doigt jamais n'abolira le hasard. Le coup de feu ébranle la distance jusqu'à la chute de la victime désignée. On la dévorera plus tard. Bruit de fond universel, acouphènes communs, brume du matin, des nuages et des brouillards. Lever de soleil et monstre marin. Mon fils, sache-le. Écrire, est-ce enfin. Mais c'est la langue qui soutient le mélancolique, l'épuisé, l'angoissé, l'errant. La langue qui ne lui manque jamais. Même à terre, la langue transporte la langue comme Ophéro ou Réprobus de la tribu des cynocéphales fait traverser sur son épaule puissante un torrent au fou furieux à l'enfant. La langue porte la langue dans chaque bouche. C'est la langue qui entre, c'est la langue qui sort, c'est le secours de la langue. La langue est un mot qui contient tous les mots. Il a cherché Coëlette les paroles délectables, les manières d'écrire juste, les paroles de vérité. Dans quel lieu la soif n'est pas la langue? La langue est la soif, la langue est là où la terre est jetée, où elle manque. Instruisez-moi, je me tairai. Montrez-moi en quoi je délire. Parler droit ne peut contrarier. Que reprocherait-on vos reproches? Me reprochez-vous des mots? Le désespéré parle au vent. La bouche ouverte sur l'intolérable. Plus de verbes. Il avait peur, mais il courait. En larmes, mais il courait. Il voulait échapper au monde, apprendre à lire et à écrire. Courir, lire, écrire, mourir. Courir, mourir. Vif et silencieux. La langue est écorchée vive qui monte le long de l'échelle. De désespéré mâche sa plaie, il ne sait pas mettre un pied devant l'autre. Il entre dans la très longue nuit. J'ai couru vers l'enfant dans la forêt en travail, dans la scène oubliée où j'ai appris à écrire. Quittant mon père pour écrire, écartant ma mère pour écrire, j'ai couru vers l'enfant qui courait vers l'école. Je mourrai dans mon nid, pensais-je. Mes jours seront des grains de sable. Ma racine boira les eaux. La rosée tiendra sur mes branches. Ma gloire, avec moi, renaîtra. L'arc sera neuf entre mes doigts. Et il y eut 12 nuits de suite. 100 jours pour les séparer. 12 nuits froides et sombres. 12 nuits de mauvais scintillements, de récitations silencieuses. 12 nuits de jargon de soldats. 12 nuits de génération, de déportation. 12 nuits de révolution. 12 nuits où l'éclaireur se perd, où la longue carabine brille par à-coups sous la lune en écaille de dorade, où le loup et l'ours rôdent, 12 nuits à nourrir le maigre feu, 12 nuits à tailler des lanières de pémican, 12 nuits à les mâcher lentement avec des boulettes de riz sauvages, avec du café chaud et sans sucre, 12 nuits où aucun n'ose parler aux autres, 12 nuits où chacun disparaît dans la mémoire de chacun. Le pays est encore debout, entre les branches de l'arbre, toi et toi, franchissant la mort, la voie du sang égarée dans les cieux, les mains sont encore visibles. Ça tient sans lumière, en bas, près du village perdu, entre deux cloches qui tintent en même temps, dans le rouge de la gorge du rouge-gorge, enfants et enfants, en procession interminable. Chacun porte sa relique, chacun son suaire, sa tête sur un plat, ou son crâne à la main, ou la balle entre les dents, ou deux trous au côté droit, ou à la gorge, la morsure du chien à trois têtes. Les cannibales ont dévoré ce que contenait le souffle, ligne rouge. Et le soir, c'est vu sur l'ossuaire et amas de chevelure. On voit sans voir, on entend sans entendre. L'épaisseur de la page d'un livre, un trait de lèvres trop mince, un reflet dans le miroir piqueté. Les visages sont proches dans le désarroi. Je jette des branches d'eucalyptus dans le feu, elles grésillent, sifflent, crépitent. J'agite l'air avec mes paumes pour faire monter la fumée vers mon visage. Je respire à fond. J'avale des grandes goulées de fumée odorante. Je suis assis sur les talons. Je chantonne des airs et des mots que les vieux ne comprennent pas, qui viennent de plus loin que moi, qui guérissent le corps et apaisent l'âme. Parfum de suc, d'épices, de baies, d'herbes froissées. À chaque nuit, un chant. Si j'étais mort pendu à un arbre, les coyotes s'assembleraient autour de moi, ils feraient cercle autour de l'arbre et hurleraient en regardant le mort. Si j'étais mort sur la terre, les vautours alentour voleraient dans les airs. Chaleureusement, ils me diraient « bonjour » et ma chair ni mes os ne dureraient un jour. La dernière fois que je l'ai entendu, c'était un choctaw qui le chantait en conduisant une Plymouth grise. Il faudra encore marcher entre les deux rivières. La nuit ne vient jamais complètement. Même la vue la plus perçante ne peut tout voir. Je marche avec eux. Je marche sans eux. Incise, un rêve. Le premier jour, il passe la matinée à marcher entre les deux rivières. Il ne parle pas, il marche. Parfois, le plus jeune se baisse et plonge la main dans l'eau. Son goût le laisse perplexe. Les plus âgés ne boivent pas. Ils tirent sur leur cigarette en marchant, mais ils ne boivent pas. À midi, ils trouvent entre les saules, les orties, les ronces, une cabane en adobe. Ils s'installent, ils mangent ce que le plus jeune leur donne, des morceaux d'un vieux lièvre tiré on ne sait quand, embroché sur une branche de laurier sauvage et rôti sur un petit feu. « Sam, » dit à Bill, « il tire bien la longue carabine. » Bill répond « oui, mais il n'est pas très bon aux cartes. » Après manger, ils fument en marchant de long en large. « À la maison de retraite, je suppose qu'ils se disent que j'ai foutu le camp, » dit Sam. La longue carabine jette des branches d'eucalyptus dans le feu. Elle grésille, siffle, crépite. Il bat l'air avec les paumes pour faire monter la fusée vers son visage. Il respire à fond. Il avale de grandes goulées de fumée odorante. Il est assis sur ses talons. Il chantonne des airs et des mots que les vieux ne comprennent pas, qui viennent de plus loin que lui, qui guérissent le corps et apaisent l'âme. « Chante-nous une vieille chanson du Montana, » demande Bill à la longue carabine. Je ne sais pas si elle est du Montana, mais la dernière fois que je l'ai entendue, c'était un choctaw qui la chantait. Si j'étais mort pendu à un arbre, les coyotes s'assembleraient autour de moi, ils feraient cercle autour de l'arbre et hurleraient en regardant le mort. Ils chantent, et les deux vieux accompagnent en frappant deux cailloux l'un contre l'autre, deux cuillères dos à dos contre le pantalon, et le feu craque, chante avec les trois énergumènes au bord de la rivière, au bord du canal, sous un petit soleil froid et humide. Si j'étais mort sur la terre, les vautours alentour voleraient dans les airs. Chaleureusement, ils me diraient « bonjour », et ma chair ni mes os ne dureraient un jour. Les vieux s'endorment après la chanson, ils ont pleuré un peu, le jeune entretient le feu, puis part chasser. Le silence revient doucement.
Alors une question pour faire aussi un lien après avec le travail de plastique d'Hubert Ducos. Claude, je vais montrer quelques pages du livre, et c'est vrai que tout à l'heure tu disais que tu travaillais depuis le début de ce cycle en relation avec un choix d'images. Donc tout le livre est composé d'un choix d'images qui s'incruste dans les pavés de texte, choisi toujours pour chaque livre par Claude. Et j'aimerais qu'il nous parle un petit peu plus de ce rapport à cet imaginaire visuel, ce choix de photographie. Ce n'est pas d'illustration, c'est des choses qui viennent en contrepoint. Il y a un rapport subtil avec le texte, des choses qui s'installent aussi vraiment en relation avec les pavés de texte et qui relancent le récit. Et c'est quelque chose donc qui a débuté avec La vie de famille, qui se poursuit, et c'est une vraie réussite. Et juste pour l'anecdote, je note que le dernier livre d'Olivier Cadio, que tout le monde connaît bien, et un ami aussi à Claude, a commencé un peu à s'essayer, c'est le mage en été, à s'essayer à mettre quelques vignettes, comme ça aussi, et que ce jeu de vignettes réponde aussi au texte, par moment. Le texte d'Olivier est très très beau, mais je trouve que là, ça marche beaucoup moins bien que ce que fait Claude. Voilà, donc c'est... Mais peut-être que Claude a commencé beaucoup plus tôt.
Oui.
J'aimerais qu'il nous en dise un mot.
Non, alors, il se trouve qu'on est... Que ma compagne Sophie et moi, on est des obsessionnels. On fouille les brocantes, on récupère toutes les vieilles lettres, les cartes postales, les photos, comme je le disais tout à l'heure. Donc, quand j'ai fait La vie de famille, très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que, comme dans toute histoire de famille, il y ait des vous savez, des albums de photos, des boîtes à chaussures dans lesquelles on trouve des vieilles images. Et on ne sait pas qui sont sur les photos en général. Donc j'avais imaginé simplement à ce moment-là, dans mon premier, qu'il y ait trois doubles pages qui rythment le livre, sur une page qui était un peu l'histoire de l'art de la famille, l'autre page qui était un peu l'histoire du cinéma vue par la famille, et puis l'autre, la dernière partie, qui était des photos de famille. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que toutes les photos de famille qu'il y avait, c'était des photos de famille que j'avais trouvées dans des brocantes, et ma mère a reconnu sa mère sur une photo, qui bien entendu était absolument impossible. Et puis il y a Jack Spicer qui s'est glissé dans les photos. Ça, c'est un truc assez rigolo. J'avais donné en fait une clé USB au graphiste et j'avais mis dans cette clé USB, en plus du dossier, il y avait une photo de Jack Spicer que j'avais récupérée sur Internet. Et le graphiste s'est dit, il a dû oublier de la mettre dans le dossier, il faut que je la mette quelque part, ça doit être dans la famille. Donc je lui ai dit aux premières épreuves, il faut la retirer, parce que je me dis quand même c'est embêtant de mettre Jack Spicer dans l'histoire, même si j'ai un infini goût pour Jack Spicer, enfin je partage beaucoup de choses avec lui. Mais Franck n'a pas écouté, enfin il a
pas
tellement
entendu.
Avoir du boulot qu'il n'a pas eu le temps de l'enlever, donc j'ai considéré que la deuxième fois elle y était encore, il fallait la laisser. Et donc Jack Spicer est dans la famille sans l'avoir fait exprès, c'est assez rigolo, personne ne l'avait tellement remarqué à l'époque. Ce qui est assez drôle, c'est après coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une photo, Didier à cette époque-là n'était pas éditeur à Coutras, il était éditeur à Bordeaux, et on s'est rendu compte qu'il y avait une photo qui avait été prise au pied du pont de Coutras. Donc c'est voilà. Assez rigolo, une dame en maillot de bain avec un petit chien dans les bras, enfin, c'est assez étonnant. Donc les photos, elles sont venues un petit peu comme ça. Et puis avec le temps, les photos sont devenues effectivement, dans le deuxième livre, des vignettes qui introduisaient un peu des choses. Par exemple, chaque chapitre commençait par une image. D'ailleurs, Déborah Hessler, sur son blog, avait parlé du sens des vignettes dans ce livre-là. Je trouve ça assez drôle, parce que moi, je n'y avais pas pensé du tout. Tout au moins au sens, elle a trouvé un sens très précis aux vignettes. Dans le troisième, les photos étaient beaucoup plus rares, mais beaucoup plus en pleine page, introduisant les parties, etc. Dans celui-là, il y en a beaucoup plus, et ces photos-là sont des photos qui, à la fois, soulignent des choses, parfois les confirment, mais parfois les infirment. Par exemple, mon grand-père n'a jamais porté de chapeau venant de je ne sais plus quel chapelier que j'ai imaginé. Là. Et donc j'ai trouvé un chapeau quelconque, j'ai mis là. Mon grand-père portait que des casquettes. Donc, il a porté un chapeau, je l'ai vu qu'une fois avec un chapeau sur la tête, mais je me suis amusé avec ça. Bon, à un moment, les personnages roulent du caporal, je me suis dit, qui est-ce qui sait encore ce que c'est que le caporal ? Et on n'est plus beaucoup à savoir avoir vu du caporal. Donc j'ai trouvé un paquet de caporal, je l'ai mis en photo. Il y a des choses comme ça qui fonctionnent. Et puis voilà, et donc il y a parfois des images un petit peu particulières. Bon là, j'ai mis, comme je ne vous ai pas demandé à Cromwell une image de Mohican, j'ai mis une photo de Mohican, mais ce n'est pas lui qui l'a faite. Donc voilà, ça fonctionne un petit peu. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me permet de donner de l'espace à quand j'en ai plus, quoi. Quand je commence à étouffer un peu dans mon histoire, je mets une image et puis je laisse l'image monter, voir ce qu'elle peut faire avec le texte, produire. Des fois, je l'enlève. Le texte fonctionne finalement autrement. Je peux remplacer l'image par du texte. Parfois, je peux pas. Et donc, je trouve que l'image remplace très bien ce que j'aurais pu dire.
Il y a un rapport à la musique avec l'image. Parce qu'il y a un rapport de contrepoint aussi.
Oui, et puis, mais de toute façon, il y a beaucoup de musique. Il y a un rapport à la musique aussi extrêmement important de toute façon dans tous ces livres. D'ailleurs, il y a toujours des remerciements à la fin. J'ai remercié pas mal de musiciens. Donc, dans celui-là, parce qu'il y a quand même, ça doit beaucoup à Bach, ça doit beaucoup à pas mal de gens. Voilà, donc je ne sais pas si je peux en dire plus sur les images, mais je ne pourrais plus travailler aujourd'hui sans. Au point que d'ailleurs, là, j'ai eu un souci. J'ai répondu à une demande de texte pour le Centre national d'études spatiales qui fait une revue annuelle, ce que j'ignorais totalement, dans laquelle on demande à des écrivains d'écrire des choses sur des mots qu'on vous donne à travailler. Et j'avais envisagé de mettre des images. Et ils m'ont dit « Ouh là là, non, non, il n'y a pas d'image dans notre revue, c'est hors de question. » Donc comme j'ai remplacé aussi la conjonction de coordination par une esperluette depuis le début, et ça leur a posé beaucoup de problèmes, ils voulaient absolument que je les remplace, mes esperluettes, pour mettre des conjonctions de coordination, et j'ai tenu bon. Mais ça leur a paru quand même très étrange, ça.
C'est quand même un signe typographique.
Voilà. Alors comme néanmoins il est question de Montaigne dans le texte que je leur ai donné, ils ont considéré finalement qu'avec Montaigne, ça pouvait passer.
Hubert, est-ce que tu veux nous parler, en conclusion, dire un mot de ta pratique de codage, hein, comme on parlait des images avec, avec Claude. Ces codages que, je le rappelle, on pourra voir dans l'exposition qui est déjà en place à la médiathèque de Lormont et que Hubert Ducot inaugure vendredi 11 à 17h30. Voilà.
Les collages viennent de... Les images, les éléments viennent de Télérama, généralement. Pas toujours. J'en ai fait en Italie avec différentes choses. Un jour, un ami m'a fait un cadeau extraordinaire, c'est-à-dire la première revue pornographique que je n'avais jamais vue. J'ai fait des collages pornographiques et c'était extrêmement intéressant. Parce qu'il y a vraiment la fameuse culture, on revient à la sculpture primitive. Hein, il se trouve que les revues pornographiques, chacune des images sont des montages, en fait. Non pas des trucages, mais c'est quand même, par rapport à la réalité, c'est un montage. C'est un montage avec, en privilégiant très fortement, certains éléments bien connus. Donc, ce que j'ai voulu faire, ou ce que j'ai réussi à faire progressivement, en ayant toujours le même magazine dont les couleurs sont les mêmes. C'est-à-dire que si je prends un morceau de « Autant n'emporte le vent » et un morceau de « Demoiselles de Rochefort », le magazine me donnera les mêmes gris, les mêmes mauves, etc. Et l'unité se fait. Ce que j'ai voulu, c'est faire des chimères, c'est-à-dire non pas faire des photomontages, mais faire véritablement des moulins à café dont la tête soit une montagne, etc. L'exemple bien connu de tous, et à chaque fois ça marche, c'est un personnage qui a un petit corps, une grosse tête, ou l'inverse. Eh bien, dans mes collages, marche le fait que la montagne accouche réellement d'une souris. Et que la souris puisse s'ériger au rang de rat majeur. Donc voilà l'intérêt. Les formats sont extrêmement différents. J'ai eu du mal à passer au grand format. Il m'a fallu des années pour passer au grand format parce que les passages sont à vide. C'est-à-dire que quand on a une espèce de format A5, c'est-à-dire la moitié d'une page A4 qui est tel ou tel élément pris dans le magazine, l'absence de traitement est gênante. Alors, si j'ajoute là-dessus des petits motifs pour égayer cette espèce de page évidente et plate, ça peut faire photomontage. Donc, pour la toute troisième ou quatrième fois, je répète bien que je ne veux pas faire de photomontage. Ce que je veux, c'est être surpris. C'est vraiment faire une créature, accoucher d'une créature. Et puis, vraiment, j'aime la peinture, j'aime depuis toujours, et j'ai souvent dit que la peinture m'avait plus influencé que les milliers de livres que j'ai pu lire. De temps en temps, je suis dans des grilles de Goya ou de Paul Klee, simplement grâce à Télérama. À ce moment-là, Télérama, bon, il y a bien des défauts, mais là, les images, c'est mon matériau de base. Et là, je trouve ça tout à fait étonnant de faire quelque chose qui me fasse penser à des teintes du Gréco, alors que j'associe une vedette hollywoodienne à Senso ou au Guépard, vous voyez.
Bon, merci.
C'est tout.
Oui. Alors moi, je rajouterais quand même ce qui est intéressant dans ce travail, que je vous encourage à venir voir à Lormont, parce qu'il y a un choix, un petit choix, parce que Hubert Ducot a fait des milliers de collages. c'est la, le fait est que ça ne soit pas des collages d'artistes, mais c'est vraiment le collage des collages et une production plastique d'un écrivain, et on retrouve vraiment un système d'écriture dans ces collages. C'est vraiment l'écriture d'Hubert Lucot qui passe à travers un autre matériau, d'autres matériaux, même si c'est quelque chose pour lui, il ne dit pas, mais c'est quand même une activité beaucoup plus ludique. Il y a pas, t'as des enjeux, mais de plaisir pur par rapport à ces collages. Mais maintenant, avec le temps, il y a une masse, il y a des propos, il y a des discours. Beaucoup sont émaillés de slogans ou de charges, comme ça, des tournements de phrases. Donc on est quand même dans l'écriture aussi. La vraie écriture, et on est aussi dans ce rapport, comme tu disais, à la peinture, à la chromie, à l'histoire de l'art. Donc tout ça se mélange et fait quand même une œuvre complexe et très étonnante.
Oui, on peut faire beaucoup de collages et ensuite faire une bonne sélection.
Ce qu'on fait depuis longtemps.
Et là, on a fait ensemble depuis 10 ans presque une sélection, reprise. On a du mal à tomber au-dessous de 150, puis finalement on arrive quand même à 100... J'ai du mal à déchirer, mais il m'arrive, il y a des jours, je fais 10 collages, et certaines fois, les 10 pourraient être considérés comme bien.
Merci à Claude Chambard, Hubert Lucot.